VOA Afrique, les infos. À Washington.
Avec vous Henri Francisque, Média Abidjan, 13h à Brazzaville, bienvenue à notre journal. En Côte d'Ivoire, la vie normale a repris ce mercredi à Boaké après une nuit marquée par des coups de feu et des explosions qui ont commencé hier soir. Cette ville du centre du pays, à 350 km d'Abidjan, est l'épicentre des mutineries de soldats ivoiriens depuis 2017. Plus de détails avec notre correspondant sur place, Siriki Barrault.
Aux alentours de 19h, heure locale, des éléments, des forces de l'ordre, des militaires se sont attaqués à la base du centre de commandement de décision opérationnelle, CCDO, qui est basé au quartier Sokora. Ils ont été repoussés. Cette attaque a finalement dégénéré en une nuit folle avec des échanges de tirs à l'arme lourde qui se sont poursuivis jusque très tard dans la nuit. Les populations ont eu très peur, elles ont été prises de panique. Les tirs se sont arrêtés aux alentours de minuit 30 et juste après, on a eu deux hélicoptères MI-24 qui ont décollé d'une base militaire à Abidjan et qui ont survolé la ville de Boaké pratiquement toute la moitié de la nuit. Les tirs étaient très intenses du côté du 3e bataillon situé également dans le même quartier, dans le quartier Sokora, quartier qui abrite la base du centre de commandement du CCDO. On a entendu des tirs à l'arme lourde. Il y a eu une grosse détonation qui vraiment a été entendu pratiquement dans toute la ville. Siriki Barrault, Mboaké, pour VOA Afrique.
Afrique centrale maintenant, une délégation de l'épiscopat du Congo-Kinshasa a été reçue mardi par le président du Congo-Brazzaville, Denis Sassou Nguesso. Objectif, éviter le pire suite aux violences qui ont tendu les relations entre les catholiques et le pouvoir à Kinshasa. Les précisions avec Dili Diko.
Les évêques de la RDC se sont rendus à Brazzaville pour rencontrer le président Denis Sassou Nguesso, chargé du suivi du mécanisme de paix et de sécurité dans la région des Grands Lacs, selon l'abbé Donatien Tcholé, porte-parole de l'épiscopat. Il a ajouté que la marche du 31 décembre dernier à Kinshasa a été évoquée et que si la situation est prise à la légère, on risque de vivre le pire. L'interdiction et la dispersion musclée de la marche des catholiques le 31 décembre à Kinshasa a fait au moins 5 morts, selon l'ONU et la Nonciature apostolique. Le gouvernement de Kinshasa assure qu'il n'y a eu aucune victime. L'archevêque de Kinshasa, Laurent Monsingo, a dénoncé la barbarie des autorités et réclamé que les médiocres dégagent. Très proche du président Sassou Nguesso, le cardinal Monsingo ne faisait pas partie de la délégation. Des élections sont prévues le 23 décembre 2018 pour trouver le successeur du président Joseph Kabila, dont le dernier mandat s'est terminé en décembre 2016. L'opposition l'accuse de tout faire pour se maintenir au pouvoir et l'abbé Ncholé a indiqué à Brazzaville que les élections à la fin de l'année sont faisables.
En Centrafrique, environ 150 tués, plus de 2000 maisons incendiées. Tel est le bilan des violences en cours depuis le 20 décembre dernier à Paroua, dans le nord-ouest du pays. Ces violences font suite aux affrontements entre le groupe armé ARJ, Révolution et Justice, dirigé par Armel Sayo, et le MPC, une faction de l'ex-Séléka commandée par le général Abbas Barr. Devant la dégradation de la situation, le député de Bokaranga, Martin Zigele, ancien candidat à la présidence, tire la sonnette d'alarme. Il est au micro de Félix Yepassi Zembro.
Originellement, il n'y avait pas de Séléka à Paroua. C'est un groupe armé qui s'appelle RJ, Révolution et Justice, dirigé par Armel Sayou. À un moment donné, ce groupe a fait appel aux ex-Séléka du MPC, qui étaient vers Kagabandoro ou Kabo, de venir se joindre à eux à Paroua. Donc, les gens de MPC, dirigés par un certain Amat Bahar, qui est un bandit, un criminel, ils sont venus à Paroua, s'unir avec les 3J, et ils ont commencé à écumer la région. Ils ont pris Ndaoundaï et suite à l'intervention musclée de la MINUSCA qu'ils ont libéré Ndaoundaï, après, ils se sont alliés aux 3 heures de Sidiki pour prendre Bokaranga et ils ont été délogés de là. Donc, ils sont revenus sur Paroua et à la faveur d'une dissension entre les 3 heures, les RJ, c'est-à-dire Révolution et Justice de Sayo et Amat Bahar sur des problèmes de vol de bœufs ou de trafic de bœufs, et le 20 décembre, ils ont commencé à s'affronter. Maintenant, les ex-Séléka de Bahar s'en prennent systématiquement à la population civile. Ils ont tué plus de 150 30 personnes à la date d'aujourd'hui. Il y a des combats à 9 km de Paoua parce qu'ils tentent de prendre Paoua pour contrôler les sorties de la ville. Dans chaque village, la commune de Miapende, de Danabaria et de Babessar, qui sont donc frontaliers du Tchad, ils vident les greniers des gens parce que les récoltes ont eu lieu en décembre et ils disparaissent avec les récoltes. Donc ils incendient systématiquement les villages. Les femmes, les enfants, etc. fuient pour venir à Paoua. Il y a plus de 50 000 réfugiés actuellement à Paoua. Et les villages dans ces trois communes sont vides. La seconde région la plus peuplée après celle de Bangui, c'est la région de Paoua justement. Donc vous imaginez un peu la catastrophe humanitaire, les violences et le désastre là-bas. Nous appelons l'intervention rapide de la MINUSCA dans le cadre de son mandat pour amener tout simplement la paix dans cette région-là et de bouter dehors tous ces bandits qui n'ont aucun projet politique.
Oui, la MINUSCA est-elle présente dans la région, sûrement.
Mais la MINUSCA est présente à Paoua, à Bokaranga, à Ngaunda, il y a un contingent de la MINUSCA à Bossangwa, à Markunda et tout. Des femmes enceintes sont tuées, égorgées, éventrées. On enlève leurs bébés dans leur ventre pour les jeter. Les vieux qui ne peuvent pas fuir, on les brûle dans leur maison. Tous les villages, à partir de Bémal jusqu'à la frontière du Tchad, sur 30 km, tous les villages sont systématiquement brûlés. Plus de 2000 maisons. C'est inacceptable qu'aujourd'hui, en 2018, des drames comme ça se passent à guichets fermés. Des hommes et des femmes meurent comme des animaux.
Monsieur Zigile, qu'en est-il du réarmement des FACA dont on parle souvent?
Je voudrais d'abord saluer la Russie qui a fait une donation gratuite d'armes, de matériel militaire à la RCA et je voudrais que les autres pays membres du Conseil de sécurité fassent la même chose. Il faut qu'ils aident le pays à avoir une armée pour défendre le pays. Si demain on ne fait pas attention et qu'on laisse cette situation comme ça, ce qui se passe au nord de la RCA sera pire que ce qui se passe au Nigeria avec Boko Haram.
Martin Zigile, député de Bokaranga et ancien candidat à l'élection présidentielle en RCA.
La Voix de l'Amérique en direct de Washington.
En Afrique du Sud, le président Jacob Zuma a nommé mardi une commission chargée d'enquêter sur les accusations de corruption à la tête de l'État, dans lesquelles il est régulièrement cité. Le président a pris cette décision après de nombreuses pressions, dont l'ultimatum d'un juge de Pretoria. Les détails avec Eddie Sango.
Le président Zuma nomme cette commission avant l'expiration des 30 jours donnés par un juge de Pretoria. Le juge lui avait ordonné de créer cette commission lors d'un procès en appel dont il était le plaignant. La nomination de la commission intervient aussi un an après la publication d'un rapport compromettant pour le chef de l'État sud-africain et ses liens avec les Gupta, puissante famille d'hommes d'affaires indiens dans la gestion des affaires de l'État pour obtenir des contrats publics. Jacob Zuma a concédé être un ami de la famille Gupta, mais a toujours nié les avoir favorisés. Zuma est l'objet de plusieurs accusations. Il a déjà été contraint de restituer une partie de la somme utilisée pour reconstruire sa villa privée. L'ex-médiatrice de la République, Tuli Mandonsela, réclamait déjà une commission d'enquête et Cyril Ramaphosa, qui vient de prendre la tête de l'ANC, promet lui aussi de combattre la corruption jusque dans les rangs du parti au pouvoir.
Corne de l'Afrique, les députés du Somaliland ont adopté pour la première fois de l'histoire de cette république autoproclamée une loi punissant les auteurs de viols. Décision saluée comme une victoire pour les femmes dans ce territoire musulman conservateur. En raison de la sensibilité du sujet, il aura fallu 7 ans de discussion avant que la loi soit finalement adoptée à Hargeisa, capitale de ce territoire, ayant déclaré en 1991 son indépendance du reste de la Somalie. La loi doit maintenant être examinée par la Chambre haute. Le Somaliland n'est officiellement reconnu par aucun pays et est considéré comme par la communauté internationale comme faisant partie intégrante de la Somalie. Actualité américaine maintenant concernant l'immigration ici aux États-Unis. Le président Donald Trump appelle au compromis. Mais le chef de l'État ne lâche rien sur son projet de mur à la frontière avec le Mexique. Morgan Guillet nous en dit plus.
Donald Trump a appelé hier les élus à trouver un compromis sur l'immigration et la régularisation de milliers de clandestins arrivés enfants aux États-Unis. Le président Trump a abrogé en septembre le programme DACA, qui a permis à près de 700 000 jeunes sans papiers de rester sur le sol américain. Il a donné au Congrès jusqu'à mars pour trouver une solution permanente pour cette population connue sous le nom de Dreamers. En revanche, le patron de la Maison-Blanche est resté inflexible sur le mur à la frontière du Mexique. Insistant sur la sécurité, il exige le vote de crédit pour ériger le mur. C'était l'une de ses promesses de campagne pour barrer la route à l'immigration clandestine. Monsieur Trump a une nouvelle fois réclamé la fin du rapprochement familial et la suppression de la loterie annuelle de cartes vertes.
À noter qu'un juge américain a bloqué mardi l'abrogation par le président Trump du programme DACA et a demandé au chef de l'exécutif de rétablir le programme sur l'ensemble du territoire américain.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.